Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, ici Lucie, la reine, l'émission d'information locale de Canal B s'apprête à commencer. Et au sommaire, l'info du jour, 1600 enfants qui mouillent le maillot lors de la semaine olympique et paralympique à Rennes. Deux interviews pour annoncer le mardi de l'égalité du jour en compagnie de Mélanie Gourarier, anthropologue. Puis on vous donnera envie d'aller découvrir Luttes Intimes, un documentaire signé Emmanuel Mathieu autour des addictions. Il y aura de la musique dont une nouveauté et puis une recommandation. Le 21e Café Immortel, bienvenue dans la reine. Allez, c'est parti, on commence cette émission d'info locale avec une info que j'ai choisie pour vous dans tout ce qui se raconte dans la presse locale. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de la semaine olympique et paralympique, 3e édition. Du jeudi 4 au mardi 9 avril, 1600 enfants des écoles publiques de Rennes étaient en effet réunis à la plaine de jeux de Bréquigny pour s'initier à 14 disciplines olympiques et paralympiques. Il s'agit d'une initiative nationale déclinée ici avec le soutien de la ville de Rennes et de ses éducateurs sportifs qui interviennent, on le rappelle, en soutien des enseignants d'EPS tout au long de l'année. L'objectif de cet événement, c'est de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et de mobiliser la communauté éducative autour des valeurs de l'olympisme et du paralympique à quelques mois des Jeux 2024. Vous ne serez pas surpris si je ne déborde pas d'enthousiasme pour les JO. Même si plusieurs voix du sport et du tourisme estiment que l'heure n'est pas à la critique, j'en mets une petite couche au passage sur l'envoi aux écoliers en février de livrets pédagogiques, et ce accompagné de pièces de 2 euros floquées à l'effigie des Jeux Olympiques. L'initiative a coûté 16 millions d'euros à l'État et ne passe pas auprès de syndicats enseignants qui rappellent les coupes budgétaires récentes qui touchent leur ministère. Bon, sur cette semaine olympique et paralympique à Rennes, j'y reviens. Quand même un bon point sur l'idée d'inciter les jeunes citoyens à se mettre en mouvement. En tout, ce sont 74 classes du CE2 au CM1 qui ont pu s'essayer au rugby, au basket fauteuil, à la gymnastique acrobatique ou encore à la course déficient visuel. L'Union Rennes Basket et le REC Volley Féminin ont aussi participé à l'événement en proposant des démonstrations sur le temps du midi. Allez, après cette info du jour, on passe à une première interview.
Beaucoup de mes amis disent voilà, être un homme c'est être fort, c'est s'affirmer, voilà, c'est, et moi je me reconnais pas tout le temps là-dessus, et donc je suis venu voir ce que c'est être un homme.
Aujourd'hui, les pères sont plus présents avec leurs enfants, sont plus soutenants avec leur épouse, partagent plus les tâches ménagères, et je pense que pour l'homme aujourd'hui c'est pas évident de s'y retrouver.
On attend beaucoup d'un homme, on lui demande d'être viril mais doux. Et aujourd'hui, il faut se positionner par rapport à ça, sans être viril, sans être macho. Doux, sans être mou.
Pour les organisateurs, être un homme, c'est être viril. Et pour les encourager à affirmer leur virilité, ils ont prévu des épreuves sportives où l'on montre ses muscles. Ici, il faut pousser cette voiture le plus vite possible.
Extrait d'un reportage diffusé sur France 2 il y a de ça déjà quelques années, puisque c'était en 2017, où on a entendu des voix d'hommes qui se questionnent sur ce que c'est être un homme, et c'est le sujet de notre entretien avec Mélanie Gourarier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue spécialisée dans les questions de genre et de sexualité, chercheuse au Centre National de la Recherche Scientifique, et vous serez l'invitée des Mardis de l'Égalité ce mardi 9 avril à 18h. Les auditeurs ont encore le temps de s'y rendre s'ils nous entendent en courant, et on précise que le rendez-vous est complet mais qu'il y a toujours des désistements de dernière minute, donc vous pouvez tenter votre chance. Alpha Mâle, la pensée masculiniste et ses adeptes, c'est le titre donné à la conférence en lien avec un ouvrage que vous avez publié en 2017, Alpha Mâle, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes, publié aux éditions du Seuil. Alors il se trouve que 2017, année du reportage là, dont on vient d'entendre un extrait, c'était aussi le lancement du mouvement MeToo avec l'affaire Weinstein. On a donc observé deux mouvements un peu inverses au même moment, même si, vous l'expliquez, il y en a une idéologie en tout cas qui préexistait à l'autre.
Oui, ben merci de faire ce lien de la préexistence en fait de deux mouvements qu'on imagine être ultra contemporains. D'une part, ce qu'on appelle la libération de la parole avec MeToo, et d'autre part, la montée des masculinismes. Et alors, ce qu'on montre un peu nous dans les sciences sociales, c'est que c'est et en histoire notamment, c'est que ces deux mouvements-là, ces deux tendances-là, sont absolument pas nouvelles, mais que ces tendances-là intéressent davantage aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vraiment ça vit ensemble, quoi.
Comment est-ce qu'on caractérise l'idéologie masculiniste ? Vous parlez d'une idéologie du patriarcat, mais qui en fait donc se diffuse depuis longtemps et dans toutes les sphères de nos vies. Autour de quoi ? Une vision un peu traditionnelle de ce que c'est être un homme ?
Alors pas forcément traditionnelle, justement c'est la définition que je propose. Donc pour moi le masculinisme c'est pas des personnes, c'est pas des gens, c'est une idéologie particulièrement diffuse qui infuse dans toutes les strates de la société, y compris dans nos propres têtes, à nous-mêmes, à moi-même je dirais. Et du coup c'est une idéologie qui consiste à penser la masculinité comme problématique. Ce qui fait qu'en fait il y a tout un éventail de pratiques qui part effectivement de pratiques qu'on va considérer comme particulièrement problématiques, inquiétantes, qui sont les masculinistes dont on parle beaucoup, notamment avec la manosphère, donc les masculinistes qui font du harcèlement en ligne, par exemple. Mais aussi, moi, ce que j'intègre dans cette question du masculinisme, c'est des masculinités, celles qu'on entend dans le reportage, donc dites en réforme, qui se repositionnent vis-à-vis d'un monde en mouvement à l'intérieur duquel, soi-disant, la masculinité serait restée inamovible, quoi. Immobile, plutôt. Et voilà, et c'est toute cette ces déclinaisons de masculinité qui m'intéressent.
Votre ouvrage, donc on redonne son titre, Alpha Mâle, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes, il date donc de 2017. Vous aviez mené l'enquête auprès de coachs en séduction, des coachs qui se sont développés depuis les années 90. Et ce que vous avez décrit avec ces coachs en séduction, c'est que paradoxalement, le séducteur, il s'épanouit dans l'entre-soi masculin. On sent que le féminin est un peu perçu comme une menace et qu'il faudrait la mater, on va dire comme ça, et donc adopter des codes pour ça.
Alors j'irais même au-delà, en fait, parce que c'est ça qui m'a vraiment particulièrement intéressée, c'est de me rendre compte que j'avais affaire à des réunions d'hommes qui parlaient des femmes, certes, mais qui ces réunions-là se passaient entre hommes. C'est-à-dire que les trois quarts du temps de mon terrain, et il ne s'agissait pas uniquement des cours de séduction, hein, c'était des moments d'entre-soi masculin quasiment tout le temps, et qu'en fait, j'avais affaire à des rapports entre hommes beaucoup plus qu'à des rapports hommes-femmes. Ça, c'est une première analyse, je dirais. Et l'autre analyse que je pose, c'est plutôt celle, finalement, aussi qui paraît paradoxale, mais plus on devient séducteur et plus on se détache, on se désintéresse des femmes, parce qu'au-delà d'être une menace, elles sont inintéressantes en fait. Ce qui est intéressant, ce qui est valorisé, c'est les relations masculines, les relations entre hommes, l'amitié masculine.
De quelle façon est-ce qu'il se joue là dans ces espaces organisés par des coachs en séduction se diffuse ensuite ailleurs dans la société puisque vous le dites, cette idéologie elle agit sur l'économie, le politique, le rapport à la nature, le travail, évidemment la sexualité et le genre. Comment est-ce que tout ça se diffuse d'un espace à l'autre ?
Eh bien, c'est la difficulté de penser ce qu'on va considérer comme étant des paradigmes, des manières de penser aujourd'hui. Qu'est-ce qui imprègne dans la tête, dans les représentations du monde social ? C'est un peu tout le travail de l'anthropologue. Donc en fait, moi je travaille sur les catégories. Et sur la, alors là, ça a l'air très abstrait comme ça de dire que la masculinité, ça concerne la nature. Mais par exemple, alors c'est un champ de recherche en plein développement, mais sur les questions d'extractivisme, on voit bien à quel point c'est opérant de s'intéresser à la question des masculinités parce que ça induit en fait un rapport à la géographie, qui est un rapport d'expansion, un rapport d'appropriation des territoires qui se pose dans ce qu'on considère être aujourd'hui comme une pensée extractiviste, qui est celle dans laquelle on est encore aujourd'hui. C'est valable pour la nature, mais c'est valable aussi pour le politique. Je prendrai un autre exemple, si j'ai encore un peu le temps, qui est celui du vocabulaire un peu martial qu'on retrouve dans le champ politique aujourd'hui.
Le réarmement démographique.
Le réarmement démographique, vous me l'enlevez de la bouche, qui est le plus récent, enfin un des plus récents qu'on a entendu. Voilà, donc on voit bien que dès lors qu'on pose la question des masculinités, en fait, on ne travaille pas uniquement sur les hommes.
On écoute un deuxième extrait sonore, plus récent que le premier, qui datait donc de 2017, puisqu'on va essayer de voir aujourd'hui si le phénomène s'est amplifié. Extrait d'une des dernières émissions de Blast, animée par Salomé Sacquet, elle date du 25 février. Il était donc question des masculinités.
Ils sont des centaines, des milliers, peut-être même des millions, les masculinistes. Des hommes qui ont fait de la haine des femmes une doctrine de vie.
And we have to be able to say what we have to say badly, or we won't be able to think at all.
Si tu veux, aujourd'hui, l'homme, il est sans but et il est dans une société où il n'y a plus que des prérogatives de femmes.
I would say that's another problem with the modern feminists is they can only think about one thing at a time.
À l'heure où la parole des femmes se libère, le mouvement masculiniste se renforce. Ses discours anti-femmes rencontrent un écho fort chez des hommes de plus en plus nombreux et vous en avez sûrement dans votre entourage.
Alors les gars, il y a de plus en plus d'hommes qui se font marcher dessus par les femmes.
Et je le lâche comme ça, comme un pavé dans la mare, mais oui, les femmes sont attirées par les hommes qui pensent être supérieurs à elles, tout simplement.
Vous devez savoir que les filles qui étaient arrogantes envers vous peuvent changer leur comportement et devenir douces et soumises.
Via une vidéo sur des cours de séduction ou de musculation, au détour d'une simple recherche Google, on peut tomber sur leur réseau sans s'en rendre compte et rapidement se laisser emmener par les algorithmes.
I say that women should bear some responsibility for being raped. I'd like to take this time and explain what I was saying in long format video.
Aux États-Unis, ce phénomène est si puissant qu'il mène régulièrement à des attentats perpétrés à l'encontre des femmes, assassinées pour le simple fait d'être femmes. Cette haine ne se limite pas aux frontières d'Internet, pour une partie, elle finit donc par se traduire en meurtre.
You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it.
Il s'appelle Elliot Rodger et il a 22 ans. Il a tué 6 personnes en quelques minutes. Il s'est installé au volant de sa voiture et a tiré par balles sur toutes les jeunes femmes qu'il a croisées, faisant 3 nouvelles victimes.
Dans l'Hexagone, le phénomène est loin d'être anodin et a réussi à coloniser la culture populaire.
Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer, il va bien se passer.
Le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes.
Mais bien sûr que si, sinon il se dilapide. Les femmes sont les régentes. C'est dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça.
Oui, mais il faut le
Elles
partager.
Elles n'expriment pas le pouvoir. Elles n'incarnent pas le pouvoir, c'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent.
Ces militants, organisés sur les réseaux sociaux, sont de plus en plus actifs et de plus en plus puissants.
Des hommes obsédés à l'idée de punir les femmes, qu'ils tiennent responsables de leur misère sexuelle, et qui sont considérés comme une menace terroriste par le département de la sécurité intérieure des États-Unis.
Qui sont-ils? Pourquoi représentent-ils un danger bien au-delà du harcèlement en ligne? Quelles sont leurs motivations? C'est ce qu'on va voir avec une journaliste qui a infiltré leur réseau et a discuté avec eux pendant plus d'un an. Elle s'appelle Pauline Ferrari et on va répondre à toutes ces questions avec elle dans cette nouvelle émission pour Blast.
Bon, ça, ce n'était qu'une intro, une introduction d'une émission réalisée par Blast, à retrouver en ligne, consacrée donc aux masculinistes et animée par Salomé Saquet. Ça a été diffusé le 25 février dernier. On est toujours avec Mélanie Gourarier en studio, anthropologue spécialisée dans les questions de genre et de sexualité qu'on retrouve lors d'un mardi de l'égalité aujourd'hui à l'Université Rennes 2. Alors, en janvier 2023, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes s'inquiétait de la montée de l'antiféminisme sur les réseaux sociaux. Y a-t-il vraiment une poussée de l'idéologie masculiniste? Oui, mais pas que chez les jeunes et pas que sur les réseaux sociaux, on le résume comme ça.
Oui, alors ça, c'est toute la difficulté à prendre les chiffres. C'est-à-dire que c'est pas parce que... ces chiffres-là peuvent être compris parce que c'est nouveau qu'on les observe, en fait. C'est assez récent qu'on les observe. Moi, j'affirmerais pas, j'ai pas les moyens d'affirmer qu'il y a une recrudescence de la violence verbale ou du harcèlement en ligne. Et par contre, ce qui me questionne plus, hein, parce que je cherche à voir aussi les formes banales, moi, de sexisme, c'est ce traitement-là très, très, très sensationnaliste avec les masculinistes. Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Alors même que, et là je trouve ça intéressant dans le reportage, que c'est rare quand même, il faut le dire, qu'il y a un rapprochement entre les discours des hommes en ligne et les discours de certains hommes politiques. Et en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? C'est pas un réseau organisé. C'est encore une fois une idéologie extrêmement diffuse qui se retrouve aussi dans la littérature, dans le cinéma, un peu partout en fait, et qui fait penser que la masculinité, c'est une identité qu'il faut défendre, en fait. Et quand bien même il s'agit de l'améliorer, en fait, ça reste une identité à protéger, à réformer, à défendre, etc. Et tout ça, ça participe, en fait, d'une reconduction, finalement, de pur et simple de l'ordre du genre, en fait.
Alors que, donc on le comprend, le mouvement est beaucoup plus large avec, on va dire, un conservatisme qui gagne du terrain en Europe sur cette question-là, mais aussi sur les questions d'écologie, de migration, de famille. Est-ce qu'on peut quand même estimer que cette médiatisation aujourd'hui du phénomène dans le sillon de MeToo, là depuis 2017, a participé d'une certaine façon à la diffusion de l'idéologie masculine. Est-ce que ces idées ont pu gagner du terrain via des reportages, des interviews ?
Alors c'est certain, et puis ayant pu observer en fait le moment où on n'en parlait pas et le moment où on en parle, il y a une différence nette entre le moment où je sors mon livre, où arrive MeToo, et aujourd'hui, où finalement parler de masculinisme, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, questionner la masculinité aussi, etc. Donc c'est sûr qu'il y a eu ces 10 dernières années, en raison et grâce à MeToo, un regain d'intérêt, en tout cas pour les questions de genre, pour les questions aussi d'intimité, de sexualité, d'amour, de rapport au corps, etc., ainsi que le monde, par exemple, les travaux de Camille Froidevaux-Métry.
Dans le même temps, vous estimez que les recherches autour des masculinités sont plus que jamais nécessaires aujourd'hui. Vous dites que c'est un nœud central pour comprendre la question du pouvoir et comprendre ce qui est advenu de nos sociétés aujourd'hui. On retrouve ces propos dans une interview donnée au média local Unidiver. Et vous observez d'autres chercheurs qui s'emparent du sujet
Ah oui, je ne suis pas toute seule. Et heureusement, même si on était, quand j'ai commencé, tout à fait minoritaire en France, j'ai travaillé par exemple avec deux collègues. On a fait un congrès en fait sur le concept de masculinité hégémonique, un concept dans lequel on travaillait sur nos thèses. Mes collègues, c'est Florian Voros qui travaille sur la pornographie, déconstruit le rapport à l'addiction à la pornographie dans sa thèse et dans un ouvrage qui est sorti récemment à la découverte. Et aussi Gianfranco Rebuccini qui a travaillé sur l'homoérotisme au Maroc. Voilà, donc on a eu un moment comme ça au début des années 2010 de rencontres autour de travaux assez minoritaires, donc sur les masculinités, notamment les masculinités hétérosexuelles. On a eu envie de diffuser des concepts qui étaient opérants pour nos enquêtes, en fait, donc notamment le concept de masculinité hégémonique de Ray Winconnell, etc. Donc il y a depuis, heureusement, et je le vois moi, avec puisque je dirige des masters, donc avec le nombre de sujets qui sont proposés par les jeunes masters sur les masculinités, on est passé du simple au double, voire plus du double. Donc il y a un intérêt nouveau pour ces questions-là et de plus en plus de jeunes chercheurs en histoire, en sociologie, en philosophie, en études littéraires qui travaillent sur ces questions-là.
Dernière question, lorsqu'on voit par exemple les incels, cette communauté en ligne de jeunes hommes hétérosexuels qui souffrent de ne pas avoir de succès en amour et qui développent une rhétorique antiféministe, et qu'on voit donc ces communautés qui sont donc dans un entre-soi masculin avec une haine des femmes, on va le dire comme ça, est-ce qu'il y a un dialogue possible avec ces communautés-là, avec ces hommes-là, quand on voit la caisse de résonance que leur offrent les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut dialoguer? Qu'aviez-vous observé lors de votre travail d'enquête avec des coachs en séduction en 2017?
Alors, bon, moi, c'est mon travail de dialoguer avec eux, donc je ne vais pas vous dire non, il ne faut pas dialoguer, parce que essayer de comprendre ce qui s'y passe. Enfin, moi, je prends très au sérieux leur discours. Je ne suis pas dans une évaluation de... Par exemple, ils ont un discours sur la souffrance. Je ne vais pas leur dire qu'ils ont faux, que leur discours, ils ont tort de se sentir souffrant. Ils se sentent souffrants, ils l'expriment. Parfois, ils ont des émotions visibles, des larmes, etc. Je ne peux pas juger de l'authenticité de ce qu'ils ressentent. Mais le travail des chercheurs, je dirais, c'est de prendre ces discours-là et de les remettre dans une perspective plus large que celle à la fois de l'histoire, mais à l'échelle aussi de la sociologie. Et si on met ces discours à l'échelle de l'histoire, on se rend compte que ces discours de souffrance sont récurrents dans l'histoire, donc ils ne sont pas nouveaux. Et à l'échelle de la sociologie, les hommes qui expriment cette souffrance-là sont plutôt très bien positionnés dans l'échelle sociale, à l'échelle globale. Mmh. Voilà. Et donc c'est ça un peu le travail qu'on fait, c'est de remettre en perspective ces discours.
Et de redire qu'il n'y a pas eu d'inversion de la situation dans les rapports hommes-femmes, quoi.
Exactement, et ça c'est les chiffres aussi qui nous le prouvent, ou les travaux de mes collègues qui travaillent sur les inégalités faites aux femmes. Et là, on voit bien qu'à tous les niveaux, il n'y a aucune enquête qui atteste d'une suppression de la domination masculine.
Mélanie Gourarier, vous êtes donc anthropologue, chercheuse au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, et vous serez l'invitée à partir de 18h des Mardis de l'Égalité, donc sur le campus de l'université à Rennes 2. Un rendez-vous à vivre ce mardi 9 avril, mais si vous le ratez, auditeur, sachez que la conférence est proposée en replay sur le site lairdu.fr, et il y sera donc question de la pensée masculiniste et de ses adeptes. Il est encore temps de s'y rendre pour ceux qui souhaiteraient y assister, puisque même si c'est complet, il y a toujours des désistements en dernière minute. Et j'ajoute pour terminer que votre ouvrage, dont on redonne le titre,
Alpha Mâle, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes,
paru aux éditions du Seuil en 2017, on pourra le trouver sur place grâce à la librairie Comment Dire. Merci beaucoup.
Merci à vous.
yeux qui voient. Les deux yeux qui mieux que moi y voient. Réveiller et voir ce qui se joue. Le regard qui mieux que moi sait où. Tout est curieux. L'observer mieux. Plus paresseux. Remarquez ça.
Vubslin avec le morceau Tout est curieux sur Canal B. C'était une nouveauté musicale sélectionnée par Yann, notre programmateur musical, et à retrouver sur un album. Faire ça, c'est son titre, et c'est sorti chez les disques Bongo Joe au début du mois de mars. Un quatrième album porté par ce duo lausanno-bruxellois que vous venez d'entendre dans L'Arène, l'émission d'info locale de Canal B. On continue cette émission avec la deuxième interview du jour.
Je pense beaucoup, moi. Je pense longtemps à réfléchir, à penser, tout ça. Il n'y a pas des cheveux bien, je pense à la drogue. Je consomme plus, mais je pense à la drogue.
Mais comme tu viens de le dire à l'initiale, et ça c'est important de le souligner, c'est que je pense beaucoup. Parce que canaliser le flot de pensée, c'est pas une évidence. C'est pas une simplicité.
J'y arrive pas.
Ouais, donc, ce que tu te dis, c'est que si aujourd'hui tu es déjà en train d'en causer, et là tu te mets en marche pour y arriver.
Ouais.
Déjà, on en pose. Après, voir avec le traitement si ça peut aider. Ok ?
Oui.
Fais-toi confiance déjà aussi sur la question que le traitement vient aider à cette régularisation. Hein, c'est que la tête, elle fonctionne un petit peu plus posément.
Emmanuel Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes de la région rennaise et le réalisateur de ce film Luttes Intimes, un documentaire d'une cinquantaine de minutes qui a été tourné à Rennes, diffusé la semaine dernière sur France 3 Bretagne. Et c'est pour ça qu'on en parle, à voir en replay sur au moins un an sur la plateforme France.tv. Peut-être un mot sur votre parcours avant d'arriver à ce film. Vous avez, on va dire, un long parcours dans le documentaire filmé. J'ai vu que vous aviez abordé, alors pas en tant que réalisateur, mais déjà ce sujet de la santé mentale dans un reportage diffusé sur Arte, un village au service des malades. Est-ce que c'est un hasard de revenir au sujet de la santé mentale où ça vous travaille ?
Non, c'est un sujet qui me travaille. Oui, ce film, il a été tourné en Côte d'Ivoire et l'idée du film, c'était de montrer que cet hôpital au service des malades était sans mur. Donc les patients pouvaient aller et venir dans le village et ça faisait partie de la thérapie, de les intégrer à la vie du village.
Au-delà de ce film, depuis quand est-ce que vous travaillez dans le documentaire ?
2001.
2001, donc 20, un peu plus de 20 ans.
Ouais.
Donc une carrière assez longue. Et là, on arrive à ce film, Luttes intimes, qui a été diffusé la semaine dernière sur France 3 Bretagne et qui nous emmène à la rencontre alors de patients qui souffrent de diverses addictions. Et on les retrouve à travers un lieu qui les réunit, c'est l'Envol. Le film, il s'ouvre et la scène se répétera avec des patients qu'on retrouve à une sorte de comptoir et qui ouvrent leur boîte, notamment de méthadone, pour repartir avec dans les poches ou dans leur sac. On en dit un mot de ce lieu ?
Bah, ce lieu, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu où tout le monde peut aller, sans rendez-vous, avec rendez-vous. C'est un lieu d'écoute, c'est un lieu de suivi. Il y a des rendez-vous médicaux, il y a des assistantes sociales, il y a des psychologues, des psychiatres, il y a des infirmiers. Et puis si les gens ont envie de pousser la porte et d'aller un peu plus loin, voilà, c'est possible.
Donc l'Envol, centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, qui fait partie du centre hospitalier Guillaume Régnier.
Tout à fait.
Et qui comprend donc une équipe d'une trentaine de professionnels qui accueille des patients jour et nuit, notamment pour délivrer des substituts dans le cas d'addiction à la drogue. D'où est venu votre intérêt pour aller filmer ce lieu-là et parler donc du sujet des addictions et puis de la façon dont des consommateurs se bagarrent pour décrocher ?
Bah, comme tout le monde, j'ai fait la fête. Je pense que j'ai consommé des produits. Et puis, avec le temps qui est passé, je me suis aperçu qu'il y en a qui restaient accrochés aux produits. Et puis, la société dans laquelle on vit est très addictogène. J'étais étonné par cette espèce de grimper en puissance de tous les comportements addictifs. Donc aujourd'hui on parle d'addiction comportementale, c'est avec produit et sans produit, mais ça relève du même mécanisme.
Puisque là, on découvre des personnes qui sont accros pour certaines à l'alcool, aux drogues, aussi aux jeux. Il y a aussi une patiente qui souffre d'anorexie. Le documentaire, il a ça de précieux qu'il permet, en donnant du temps au réalisateur, de construire une relation de confiance et donc de recueillir des paroles qui sont intimes et donc précieuses. On peut parler un peu du processus pour réaliser ce film, c'est long.
Ouais, c'est très long, ouais. Oui, ça m'a pris 2 ans. J'ai passé 3 mois au contact des infirmiers pour comprendre comment ils se positionnaient, comment ils tissaient du lien avec les gens qui étaient là. Et puis, c'est au contact, quoi. Ça s'est fait sur le terrain. Et puis après, je suis revenu avec une caméra. Alors évidemment, la caméra, ça effraie toujours tout le monde. Ça crée des moments de crise. Mais finalement, c'est eux qui se sont adaptés à l'idée de participer au film. Aussi bien du côté soignant que patient, puisque j'ai quand même filmé 18 personnes. Je crois que dans le film, il ne doit en rester que 4 ou 5. Et puis le docteur Latreuil, qui est la chef de pôle, m'a vraiment laissé libre d'aller et venir, quoi.
Kevin, Victoria, Arnaud, David, Florence, Stéphanie, ce sont les personnes qu'on rencontre accros donc à différentes substances ou pratiques. Mmh. Et ce documentaire, il met en image leur lutte à différentes étapes de leur cheminement. Ça a été pour cela, on va dire, facile de les convaincre de raconter des choses très personnelles devant une caméra.
Alors moi déjà je force personne, c'est-à-dire que les gens m'ont contacté, j'avais laissé mon numéro de téléphone sur les murs, donc j'ai rencontré des gens par le biais d'appels directs, eux me contactaient, me disaient ça m'intéresse, etc. Bon alors après ça m'intéresse, ça veut pas dire que moi je suis intéressé, donc on se rencontrait, ça pouvait se faire dans le coin d'un couloir, je leur ai expliqué le projet. Et puis c'est un peu comme avec les infirmiers, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui se fait, on se choisit. Et puis on décide de partir dans l'aventure ensemble. On était bien d'accord que c'est pas parce que je les filmais, c'est pas parce qu'on se parlait qu'ils allaient être au montage.
Ce qu'il est important, je pense, d'expliquer donc à ces personnes qui acceptent de participer là, à ce documentaire dont on parle. Je disais qu'on les rencontrait à différentes étapes de leur cheminement. Ça veut dire qu'il y en a qui consomment encore au moment où vous les rencontrez. Je pense à Victoria, qui est l'une des premières qu'on découvre dans le film, qui explique qu'elle consomme de la cocaïne fumée. Elle est dans une phase particulièrement difficile. Financièrement, elle est dans le rouge. Et puis la drogue a pris toute la place dans sa vie et prend le pas sur tout le reste.
Moi, ma drogue préférée, à la base, ma femme, celle que je considère comme ma femme toxique, parce que... c'est comme une relation toxique, en fait. Vous, Vous n'arrivez pas à vous en détacher, mais quand vous êtes amoureux, vous avez envie de rester avec. Moi, à la base, c'est l'héroïne, ma drogue. Et là, depuis quelques temps, je me suis trouvé une nouvelle addiction pour la cocaïne fumée. Et malheureusement, c'est très, très, très difficile parce que c'est très cher. Ça va très vite et on n'est jamais rassasié. Donc depuis 4 mois, j'ai mon argent le 27. Environ le 3 ou le 4, j'ai dépensé mes 1 400 €. Et...
Attends, le 27?
Oui.
Ça veut dire qu'en...
Le 27. Et,
le 4, t'as tout dépensé?
Et le 4, j'ai dépensé mes 1 400 €. Oui, parce que je peux y retourner parfois 4 ou 5 fois dans la journée. Donc acheter 4 ou 5 grammes à 60 €. Voilà, plus l'héroïne à côté. Et donc ça va très très vite.
Victoria, on va la croiser physiquement, elle va changer même au fil du film, on va la recroiser plusieurs fois.
Ouais, bah parce que quand vous consommez, ça a forcément un impact sur votre corps. Quand vous changez de produit, ça a aussi un impact sur votre corps. Oui, j'ai revu Victoria un an après et ça, elle avait changé. Et aujourd'hui, elle a encore changé. Ça va mieux.
Ce qui est une bonne nouvelle. Nommer, c'est dévoiler. Dévoiler, c'est agir. C'est les mots de Simone de Beauvoir qui ouvre le film Luttes intimes. Est-ce qu'on peut dire que ce film, il a vocation peut-être à donner des visages à des personnes donc, qui sont accros, qu'on a tendance à souvent stigmatiser, qu'on juge en tout cas entièrement responsable de ce qui leur arrive?
Ouais. Alors, il y a cette citation, elle a un double sens, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est donner un visage aux gens qui ont des pratiques addictives. Bon, on oublie souvent tout ce qui est troubles alimentaires, jeux, sexe. Enfin, souvent, on réduit l'addiction juste aux produits. Et puis, le deuxième sens, c'est surtout que dans le comportement addictif, il y a une phase de déni. La phase de déni, c'est quand on ne se rend pas compte, on est submergé, on est dans le comportement... voilà, on est submergé par sa pratique. Et puis, il y a chez certains, je ne sais pas si c'est une étape de vie, qui fait que la barrière du déni se lève. Alors, c'est soit parce qu'ils ont un moment de sevrage, ils traversent un moment de sevrage, où il y a une prise de conscience.
Une rencontre peut-être aussi.
Une rencontre aussi, ouais. Bah, tout à fait, ouais. Une rencontre avec les infirmiers, par exemple, ou avec un psychiatre. Et là. Il y a des évidences qui se remettent en place qui étaient vraiment enfouies. Et en général, c'est des douleurs qui sont très très profondes, que les gens ont enfouies et qu'ils les gardent enfouies avec leur pratique addictive.
Ces hommes, ces femmes, pour certains parents de différents âges et milieux sociaux, même s'il y a quand même plusieurs personnes qui sont dans une situation de précarité, mais en lien avec l'addiction, on pourrait les croiser dans notre quotidien sans savoir qu'ils souffrent d'addiction, c'est important de le dire. Et là, vous venez de le dire, moi ce qui m'a frappé, c'est que lorsque les personnes commencent à s'interroger sur la source de leur addiction, qui vient finalement anesthésier en fait certaines douleurs ressenties, il est quand même souvent question de violence intrafamiliale, pour certaines incestueuses, en tout cas de traumatismes liés à des violences.
Oui, bah enfin moi c'est la réalité que j'ai rencontrée. Après, je ne suis pas statisticien ou médecin, mais oui, c'est des gens qui ont subi des violences et qui portent des traumas sur lesquels qu'ils n'arrivent pas à identifier. Alors après, les traumas ne sont pas tout le temps intrafamiliales. Ça peut être des accidents de parcours de vie, ça peut être... lié à la migration, lié à la guerre, lié à des agressions, voilà. Mais c'est souvent une source, c'est la source, moi, que j'ai rencontrée.
Et on découvre, entre autres, donc David Donald, c'est comme ça qu'il se prénomme, qui lui identifie assez clairement hein, le traumatisme dont il souffre avec une situation familiale très compliquée où il était en charge de ses frères et sœurs et puis traumatisé justement par le décès d'une sœur.
Moi, j'ai une sœur qui est décédée à 14 ans. Elle est morte d'overdose de cachet. Ma mère l'a foutue à la rue. Et elle a traîné avec des gens de la zone. Ils lui ont donné des cachets. Et puis, elle n'a pas résisté au cachet. Et puis, elle est décédée, quoi. Donc, j'ai ça aussi dans ma vie. Qui me bouffe aussi. J'ai pas mal de choses qui me bouffent. Parce que moi, je l'ai élevée comme ma fille, parce que lui, je me suis occupé quand j'étais gamin. C'est comme si j'avais perdu une fille, en fait. C'était ma petite Laura.
C'est vachement douloureux.
Ah, surtout à 19 ans. C'est là où tu commences à devenir un homme. Ouais, c'est vachement douloureux. Voilà, à ce moment-là, je buvais un litre de whisky par jour.
Les hommes et femmes que vous filmez, on les suit donc dans leur lutte, qui sont marquées aussi par de la colère. Il y a cette scène où la colère déborde de la part d'une patiente et atterrit face à la soignante pour des questions de délai pour avoir son traitement, c'est ce qu'on comprend.
Ouais, tout à fait, bah, c'était ça. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans cette scène, les soignants sont confrontés à ça. Et faut le recevoir, faut le gérer, faut le porter chez soi le soir, il faut revenir le lendemain matin, être à dispo des gens qui passent. Cette violence, elle est là. Ouais. Elle est là, elle est ponctuelle, elle peut monter très vite. C'est pour ça que je l'ai mis dans le film.
Et donc, cette femme aux cheveux rouges, dont on peut donner le nom Licorne, elle se fait appeler Licorne.
Tout à fait.
On la retrouve, vous dites que c'est ponctuel, on la retrouve à la fin du film. Elle est assez transformée dans la scène où on la retrouve. Mmh. Il y a eu un ajustement, je crois, au niveau de son traitement. Elle semble soulagée, en tout cas, elle a l'impression de revivre.
Ouais, alors le traitement, ça reste du traitement. C'est surtout que le lien s'est fait, en fait. Entre elle et les soignants, et ils ont pu mettre en place un traitement. Et effectivement, son traitement, aujourd'hui, elle vit mieux.
À ce comptoir, qu'on recroise plusieurs fois, donc au sein du centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, alors on ne voit pas les personnels soignants de l'envol, on les entend, on comprend qu'au-delà de la délivrance de substituts, de traitements médicamenteux, ils jouent des choses assez importante.
Bah, celui qui parle assez bien de ça dans le film, c'est Charlie, qui lui a fait aussi des passages par la rue, et qui dans le film est plutôt complètement réintégré aujourd'hui chef d'entreprise. C'est-à-dire que le lien se fait, et le lien se fait sur des choses, du silence, des regards, du respect de l'un à l'autre, une écoute, et puis dans la régularité. Il y a une confiance qui se tisse ou pas, parce que des fois, ça ne se fait pas, et puis ça ne peut pas se faire avec tout le monde, ça se fait avec certains infirmiers et pas d'autres. Cet endroit de rencontre et de passage, et de délivrance, il m'a paru ultra important.
Suite à la diffusion donc, du film sur France 3 Bretagne la semaine dernière, tout début du mois d'avril, est-ce que vous avez eu des retours, que ce soit des équipes de l'envol, des personnes que vous avez filmées ?
Alors, ouais, j'ai eu des très bons retours. Je pense que le film faisait peur. L'institution avait peur du film parce que c'est vrai que c'est un peu tendu. Ils prennent un risque de me laisser filmer comme ça. En plus, ils ne sont pas venus au montage. Bon, ils en avaient l'opportunité, mais voilà. Donc, ils ont découvert le film et... Et ils ont eu une bonne impression du film, puis surtout, lors de la première, les patients étaient là. Donc, d'un seul coup, le film repassait dans la vie, et ça les a rassurés. Je pense que la façon dont ils ont été filmés, les échanges, les mots qui sont dits, sont tout à fait dans la réalité de ce que eux vivent. Après, par ailleurs, les soignants m'ont fait des très beaux compliments. Je pense qu'ils sont assez fiers du film.
Alors, c'est quoi le plus grand risque en donnant à entendre ces paroles et ces voix-là ?
Le risque, c'est de disposer de l'image de la personne et que ça vous l'utilisiez et que vous décontextualisez.
Et que ça puisse la desservir, quoi.
Ça puisse la desservir. C'est pour ça que moi, c'est des longs plans séquences qui ne sont pas coupés. Pareil pour les infirmiers, c'est très facile de faire un film à charge. Maintenant, ils sont dans des situations qui sont des situations très compliquées, et si vous n'êtes pas sur la durée, ça peut prêter à malentendu.
Est-ce que ça veut dire que peut-être à certains moments de fragilité pour ces personnes, il y a des images qu'on choisira de ne pas utiliser et que vous avez finalement beaucoup plus de matière que ce qu'on découvre dans le film pour ces raisons-là ?
Ouais, tout à fait, c'est des questions que vous vous posez au montage, dans le choix des mots. Tout à fait.
Ouais, c'est cool ça. Fini
finis la prison.
Et puis t'anticipes peut-être l'après aussi, quoi. Mmh. Hein? Parce que les sorties de cours, c'est pas là.
Je fais mon food truck après. Là.
Ah oui. Food truck.
Ouais.
Ah ouais.
Ouais, food truck, des pâtes.
Ah d'accord.
Des pâtes. Okay. On choisit son style de pâte, on choisit son style de sauce et son style d'ingrédients. Quoi.
Peut-être dire que, enfin je sais pas si c'est intéressant, mais c'est dire que il y a des gens qui vont mieux quand même. Parce que je sais pas si dans le film, enfin je crois que le film on finit un peu sur une touche un peu gay et que l'addiction c'est quelque chose qu'on porte en soi toute sa vie. C'est pas quelque chose qui disparaît et qui se soigne comme ça, comme je sais pas, une grippe quoi.
Mais oui, c'est de dire que, mais ça on le comprend bien, il n'y a pas un parcours linéaire, il peut y avoir des rechutes, c'est un truc qu'on porte toute sa vie, et certains ne parviennent pas à la guérison, d'autres y parviennent. Y a pas de...
Ouais, on apprend à vivre avec en fait, mais c'est possible.
Emmanuel Mathieu, je vous représente, vous êtes donc de la région rennaise et surtout le réalisateur de ce film Luttes Intimes, un documentaire d'une cinquantaine de minutes qui a été tourné à Rennes. Il a été diffusé la semaine dernière sur France 3 à Bretagne, mais heureusement il est à voir en replay sur la plateforme France.tv, une production, on ne l'a pas dit, des films de traverse, découpage et France 3 Bretagne. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, sur qui vous avez un gars qui a oublié un truc là.
Non, c'est le micro de Manu.
Ah, c'est ton micro et toi.
Tiens. Du coup, on se revoit mercredi après-midi.
Ouais, parce que du coup, demain c'est grève.
C'est ça.
Donc, mercredi.
Ouais.
Alors, merci.
Salut, Gordon.
Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your tail. Take it away and give it to somebody.
Connected. What have I done? I have pushed away everyone. Help me forget. Let's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody else. 'Cause I know we're connected by
Jack White, Connected by Love, c'était le choix musical d'Emmanuel Mathieu que vous venez d'entendre dans une interview. Et ce titre est à retrouver sur l'album Boarding House Witch, c'est sorti en 2018. C'était le troisième album solo de guitariste et chanteur américain bien connu pour être l'une des moitiés du duo des White Stripes. Vous êtes toujours sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale, une émission écoutée du lundi au vendredi à 17h, comme vous êtes en train de le faire. Également en rediffusion le lendemain à 8h, et vous pouvez nous retrouver au-delà de la diffusion sur le 94.0, eh bien en ligne sur notre site canalb.fr où les podcasts de l'ensemble des émissions salariés et bénévoles sont à disposition, bien rangés donc sur notre site. Avant de se quitter, c'est l'heure de la recommandation du jour. À chaque fois en fin d'émission, on termine avec des conseils modestes, d'événements à vivre près de chez vous, parfois aussi des idées, lectures, podcasts, documentaires, aussi des exemples d'associations à suivre. Aujourd'hui, on annonce le prochain Café Mortel de la coopérative funéraire de Rennes. Ce sera le numéro 21 de ces rendez-vous qui ont été lancés en 2019 dans l'idée de lever le tabou sur les sujets funéraires et puis aussi d'élargir à des questions culturelles. Rendez-vous là au Café des Champs Libres, mercredi 10 avril à 18h30. La mort, un sujet tabou dans les médias. Ce sera la question posée en compagnie de Marie Picmal et Charlotte Hervaux. La première, elle est rattachée au service enquête du journal Libération. Elle a travaillé en 2022 sur le sujet des crématoriums, un marché français dominé par deux géants aux tarifs aléatoires, où l'on récupère aussi les métaux issus des cadavres. Alors Charlotte Hervaux, deuxième invitée, elle est, elle, journaliste indépendante rennaise, deuil périnatal, en milieu professionnel, essor des coopératives funéraires ou encore indemnisation de la peur de mourir. Charlotte a écrit et écrit encore sur la mort depuis des années sans vraiment s'en rendre compte. Elles participeront donc, ces deux invités, à une discussion animée par Louise Katz, qui est journaliste, et Grégory Neuviard, le cofondateur de la coopérative funéraire de Rennes. Comment parler du funéraire dans les médias? Comment imposer les sujets autour du deuil? Comment enquêter sur des milieux parfois opaques et fermés? Voilà quelques-unes des questions qui seront abordées. L'entrée est libre et gratuite et le détail est à retrouver en ligne sur le site lacoopfunéraire-de-rennes.fr. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.